en perspective. Alors, avant de voir quelle est la mission de l'Église, on pourrait peut-être déjà voir à qui elle s'adresse. Et pour ça, je voudrais vous poser la question que quelqu'un avait posée un jour à Jésus. Quel est le plus important des commandements? Alors, le catéchisme est loin. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui lui est semblable, c'est-à-dire c'est la même chose, ça veut dire la même chose dit avec d'autres mots, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, premier point, on appelle ça des commandements, mais ce n'est pas des ordres. Tu aimeras. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas aime ou tu dois aimer. C'est un futur. Tu aimeras. C'est une orientation de vie, une direction à prendre. Et c'est aussi la promesse d'un aboutissement. Un jour, tu aimeras de tout ton cœur. Le second point, c'est le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est tout un programme, parce que déjà, s'aimer soi-même, c'est pas toujours
Oui.
évident. Mais aimer son prochain non plus. Ça fait deux difficultés dans ces quelques mots. Et le prochain, dans la pensée juive, c'était, on pourrait dire, c'est le voisin. Celui qui est à côté de toi, il est proche, hein, le prochain. On pourrait dire, c'est celui avec qui tu partages un espace ou un temps de ta vie. C'est celui que tu rencontres partout, au supermarché, à la boulangerie, au travail, dans ta maison, dans ta rue. C'est ton prochain. Peut-être il est croyant, peut-être il ne l'est pas. Ça ne dépend pas de toi. Le commandement, c'est tu l'aimeras. Et le troisième point, en fait, ces deux commandements nous donnent la réponse à la question à qui s'adresse la mission de l'Église? Et ça nous donne plus particulièrement vers qui va s'adresser le service de l'Église. Alors bien sûr, hein, tu aimeras ton Dieu, on est là pour servir Dieu. Servir Dieu au travers de notre culte communautaire, de notre culte personnel, dans le sens culte, il y a toute notre relation avec Dieu, de la prière, de l'écoute de Dieu, de l'adoration. L'adoration, souvent, on pense que c'est la louange, les chants, tout ça, c'est bien sûr, ça en fait partie. Mais dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a une façon très attendue par Dieu de l'adorer. C'est tout simple, c'est de lire sa parole et de la mettre en pratique. La deuxième direction de la mission de l'Église, c'est servir les croyants. Alors, ça va peut-être vous paraître égoïste, mais si on applique le verset Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ma grand-mère disait, charité bien ordonnée commence. Le premier croyant envers qui diriger notre service, c'est nous-mêmes. C'est à nous que nous avons besoin d'apporter en premier tous les bienfaits de Dieu. Et c'est quand on les aura reçus, on sera capable de les transférer, de les transporter, de les transmettre. Et la communauté aussi, elle, c'est envers elle-même qu'elle doit servir les croyants. Donc dans l'Église, ça se traduit par tout ce qu'on vit déjà, la transmission de l'Évangile envers les enfants, les adultes, à chaque âge de la vie. On est dans le recevoir l'Évangile, dans le vivre l'Évangile et dans l'annoncer, parce qu'on se l'annonce les uns aux autres. Alors certains diront, oui, mais moi je me suis converti il y a 15 ans, il y a 3 mois, il y a 30 ans, mais tu as encore besoin de recevoir l'Évangile. Tu as encore besoin de le vivre. Et donc l'Église continue à annoncer l'Évangile à elle-même, ses enseignements sous toutes ses formes. Et c'est aussi le développement de relations nouvelles, marquées par ce que Norbert appelait ce matin la culture du royaume. Alors par exemple, nous, dans notre manière de vivre, je m'avance un peu, dans notre manière de vivre l'Église, il y a un élément fort qui permet de développer des relations. C'est les réunions maison, les groupes de maison. Ce n'est pas la seule chose, hein, mais c'est un exemple. Et c'est en fait toute la mise en commun de notre temps, de nos biens, de notre vie, pour que l'Évangile ait un corps, pour matérialiser, on pourrait dire, l'Église et l'Évangile. Et puis la troisième direction, c'est le prochain non-croyant. Celui-là aussi, il a le droit à sa part de service. Et là aussi, de quoi il a besoin, lui ? Il a besoin qu'on lui annonce, et il a besoin qu'on vive l'Évangile, comme témoignage. Annoncer pour faire connaître, et vivre pour manifester la nouvelle manière de vivre. Jésus l'a dit, hein, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Et là encore, ça peut prendre tous les moyens possibles. Alors je vais en citer quelques-uns qui existent dans notre communauté, mais il y en a d'autres. Et là, je pense qu'on est ouvert et on peut faire preuve de créativité, d'innovation. Le témoignage personnel, les rencontres pour partager l'Évangile, que ce soit Alpha, les groupes de maison, les invitations, etc. L'espace Segui, l'entraide, etc. Voilà donc à qui s'adresse la mission de l'Église. Alors, recevoir l'Évangile, vivre l'Évangile, annoncer l'Évangile. Je voudrais revenir un petit peu comme sur les questionnaires ce matin, mais c'est quoi l'Évangile au fait ? C'est quoi l'Évangile ? Dites-moi un peu là. C'est quoi l'Évangile ?
La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle. Ouais. Si je gagne au loto, c'est une bonne nouvelle aussi, mais c'est pas l'Évangile. Bon, je joue pas, donc j'ai pas de chance de gagner. Voilà, tes péchés sont pardonnés, le chemin vers Dieu est ouvert.
La vie éternelle.
Ouais, mais est-ce que tout ça, c'est pas des conséquences de l'Évangile ? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle d'une chose très précise. Voilà, c'est que moi, j'ai rien à faire pour être sauvé. Tout a été fait. C'est ça, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. Et si on sort de ça, si on y ajoute quelque chose, eh ben on n'est plus tout à fait dans l'Évangile. Et souvent, nous, les chrétiens, nous confondons l'Évangile avec ce que l'Évangile produit. L'Évangile, c'est juste cette bonne nouvelle, enfin juste, entre guillemets, hein, un message annoncé. Tout a été fait pour toi d'avance. C'est donc le salut accompli par Jésus en notre faveur. Et il l'a fait à notre place. Nous n'y sommes pour rien. Et donc l'Évangile, c'est vraiment bien distingué de ce que ça produit après dans nos vies. Bien sûr, on produit des nouvelles relations, une nouvelle source d'amour, des œuvres bonnes, etc. Tout ça, c'est les conséquences de l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Alors il y a fort longtemps, au pays fort, fort lointain de Tunisie. En Tunisie, donc, il y avait un homme qui était berbère, qui s'est converti au IIe siècle. Il s'appelait Tertullien. C'est pas un nom facile. Et cet homme, donc, a reçu l'Évangile. Et il est devenu un éminent chrétien et un enseignant éminent de son époque. Il est même connu 1800 ans après. Et on rapporte qu'il disait que l'Évangile était comme Jésus sur la croix. L'Évangile est crucifié par le monde entre deux voleurs. Vous voyez l'image qu'il fait, hein, Jésus était entre les deux larrons, et l'Évangile dans le monde, il est toujours entre deux voleurs. Et ces deux voleurs, il appelle ça la religion et l'irreligion, l'antireligion. On pourrait dire le légalisme, c'est un premier voleur, et le deuxième voleur, c'est le laxisme. Dit en d'autres termes, Tertullien dit qu'il y a trois manières de répondre à l'appel de Dieu. Soit par la religion, soit par l'absence de religion, soit par l'Évangile. Alors la religion, c'est quoi ? Ben, c'est faire des efforts, faire des actions, répondre à des manières de faire, suivre des commandements, etc. Des manières de penser, de vivre. Et si je cherche à plaire à Dieu ou à rencontrer Dieu au travers de cela, ben je ne vais pas aller bien loin. C'est jamais suffisant. Et une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est que chacun de nous, on est traversé par le meilleur et par le pire. L'absence de religion, l'irreligion, c'est le contraire. c'est le fait que je cherche même pas à plaire à Dieu. Je fais ce que je veux. Je suis complètement indifférent de Dieu. Et donc la troisième possibilité, selon ce monsieur Tertullien, c'est l'évangile. Je reçois le fait que je ne peux rien faire par moi-même. C'est le Christ qui a tout accompli pour moi. Et je me place sous lui ou en lui, hein, pour recevoir de lui ce qu'il a accompli. C'est la grâce, le cadeau de l'évangile. Et voilà notre mission en tant qu'Église face au monde, c'est annoncer ça. Et puis témoigner de l'avoir reçu. Alors, une fois qu'on est devenu chrétien, on a toujours ces deux voleurs d'évangile qui se présentent à nous régulièrement. On peut avoir une forme de religion dans notre vie chrétienne. Et par nos propres forces, par nos efforts, on essaie d'avoir une vie droite comme il faut. Hein, donc c'est une forme de légalisme. Je ne sais pas vous, mais moi je suis tout à fait capable de développer ça, dans mon coin, tout seul. Hein. Je suis enfant de Dieu, par ma foi en Jésus, je sais qu'il est mort sur la croix pour moi, mais désormais, je vais m'efforcer de plaire à Dieu par mes propres forces, en respectant ce qui me paraît important. Martin Luther mettait déjà en garde il y a 500 ans, il disait que la religion, c'est le mode de fonctionnement par défaut du cœur humain. Et chacun de nous, on est enclin à avoir ce raisonnement, de dire, je vais faire quelque chose, ça va être bien, et puis Dieu va davantage m'aimer, ou m'apprécier, ou m'accepter, je pourrais arriver de lui en lui en disant, hé, salut, t'as vu ce que j'ai fait. Et donc l'autre voleur, c'est le laxisme, le je m'en foutisme. Je suis devenu chrétien, je suis sauvé, maintenant je fais ce que je veux, comme je veux. Peu importe ce que Dieu demande de moi, hein. Ouais, je continue à pécher, c'est pas très grave, tout est pardonné. Je m'occupe pas du service de Dieu et des autres, après tout. Voilà, ces deux dangers nous guettent. Donc les deux dangers, on pourrait les résumer, c'est soit nos efforts, soit notre absence d'efforts, ou nos manques d'efforts. Ça devient compliqué. Mais l'évangile, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Pas ce que je fais moi, ou ce que je ne fais pas. Alors dans le Nouveau Testament, on rencontre ces deux voleurs de l'Évangile dans deux communautés à qui Paul a écrit. Peut-être vous allez vous en rappeler. Ben d'abord, c'était les Corinthiens. Alors eux, c'était plutôt du côté du laxisme. Hein. Ils faisaient quand même ce qu'ils voulaient, quoi. Bon. Et puis il y a une autre épître qui nous montre qu'il y avait... Une autre église qui était tombée dans l'autre côté, le légalisme, c'était les Galates. Voilà. Alors voyons ce que Paul écrit aux Corinthiens. Chapitre 2, verset 2. « J'ai jugé bon de ne rien savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Face au laxisme des Corinthiens, Paul le rappelle, le fondement, c'est le Christ, c'est Jésus qui est le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. Et cet envoyé, il a été crucifié. Paul rappelle la croix. C'est l'envoyé de Dieu, Jésus. C'est lui seul qui a fait ce qu'il faut. Revenez sous lui, en lui, pour recevoir ce qu'il a fait. Aux Galates, donc, qui s'était fait voler l'évangile par l'autre voleur, Paul écrit, il est un petit peu plus virulent là, il dit, « Galates stupides, qui a pu vous fasciner ?» alors que sous vos yeux, Jésus le Christ a été dépeint, crucifié. Alors les Galates avaient reçu l'évangile, mais des faux frères commençaient à leur dire que ça ne suffisait pas. Vous devez suivre certains rituels institués par la loi de Moïse. Et Paul leur dit, mais même si un autre ange envoyé du ciel arrivait sur terre et déclarait un autre évangile, je vous le dis qu'il soit anathème, hein, c'est-à-dire qu'il soit mis au rebut, qu'il soit rejeté complètement. Et en relisant la lettre aux Galates, on voit que Paul, pour les convaincre, va leur poser une question piège. Il leur dit, est-ce que c'est en suivant les règles de Moïse que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ou est-ce que c'est en mettant votre foi dans le Christ mort et ressuscité que vous avez reçu l'Esprit Saint? La réponse, elle est évidente. On reçoit l'Esprit Saint quand on met notre foi en Christ mort et ressuscité. L'Esprit de Dieu envoyé dans chaque croyant, chaque croyante, pour que la vie déployée en Jésus devienne la réalité quotidienne de chaque croyant. Ainsi, la vie sainte que nous sommes appelés à vivre ne provient pas de nos efforts, ni de nos manques d'efforts, mais elle provient de la force, de l'énergie que l'Esprit Saint fait naître en nous. Une autre façon de dire, moi j'aime bien, des fois, le mot esprit en français, je trouve qu'il a un truc un peu figé. Et si on reprend le mot original du mot souffle, hein, le mot esprit, c'était le mot souffle ou le mot vent, hein, on pourrait dire que quand le souffle de Dieu vient souffler dans notre vie, alors on sent là le dynamisme, la force qui arrive dans notre vie. Voilà pourquoi ni nos efforts ni nos manques d'efforts ne peuvent nous apporter quelque chose. Seul le souffle, l'Esprit de Dieu, le peut. L'Évangile, c'est pas ce que nous faisons, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. Alors moi, j'ai l'impression que, en tout cas, je vois pour ma vie, dans certains domaines, je vais être plus un Corinthien, puis dans d'autres domaines, je vais être plus un Galatien, Galatien. Galatois, un gars de Galate, quoi. Hein, je crois qu'il y a certains domaines où on se dit, tiens, et puis d'autres domaines où on dit, oh non, Loïc, reprends-toi. Et dans les deux domaines, je suis à côté. J'ai vraiment besoin de me rappeler que c'est Jésus seul qui a fait quelque chose pour moi. Et c'est uniquement dans la foi en Jésus seul que le Saint-Esprit vient souffler dans ma vie. Et voilà donc... L'Évangile que l'Église, dans sa mission, doit recevoir, annoncer et vivre. Chacun de nous aussi, rappelons-nous que nos efforts ou nos manques d'efforts, ce sont des voleurs de l'Évangile dans notre vie et dans notre Église. Alors j'arrive à la troisième et puis la dernière partie. Je suis dans le timing, ça va ? Donc, je voulais vous proposer qu'on regarde rapidement ce que dit Paul et ce que dit Jean sur la mission de l'Église. Donc on a parlé déjà un petit peu de ce que Paul dit. Hein. Paul dit « Je ne veux savoir que Jésus, qui est le Christ, l'envoyé de Dieu, et cet envoyé de Dieu a été crucifié. Donc, il a tout fait à ma place. Tout est accompli, a dit Jésus. » C'est ce qu'il écrit aux Corinthiens. En Corinthiens, il explique aussi comment cet événement, la crucifixion de Jésus, reste un événement honteux et scandaleux. Ou alors même une folie. Quel est ce scandale? Si Jésus est le Fils de Dieu, il est scandaleux qu'il ait été mis à mort par des humains. Les Juifs de son époque, eux, ont été scandalisés parce qu'ils prétendaient être le Fils de Dieu. Et donc, ils l'ont pris pour un imposteur. Et c'est pour ça qu'ils ont juré de le mettre à mort. Et Dieu ne leur a pas donné raison, parce qu'il a ressuscité ce Jésus pour montrer qu'il s'était complètement trompé. En faisant revenir Jésus à la vie, Dieu montre qu'il est vraiment le Christ, son envoyé. Le Fils de Dieu envoyé dans le monde pour sauver le monde et devenir le Seigneur du monde. Alors une autre réaction est de considérer la croix comme une folie. C'était à l'époque déjà, hein, les non-juifs trouvaient que c'était une folie, puis... C'est resté encore à notre époque. Hein. Si vous parlez de la croix de Jésus à des gens, on va dire. Et c'est une folie pour les hommes sages, pour la sagesse humaine, d'imaginer que Dieu est devenu un homme et que ce Dieu qui est normalement tout puissant, puisqu'il a tout créé, s'il est vraiment Dieu, c'est impossible qu'il ait été mis à mort. Ça n'a pas de sens. Le Dieu qui est la vie est mort. Comment comprendre ça ? Alors c'est un vrai paradoxe, le scandale et la folie de la croix. Et malheureusement, c'est le cœur même de l'Évangile. Alors, petite blague, ça ne facilite pas notre tâche d'annoncer l'Évangile. Parce qu'annoncer un scandale ou une folie, c'est pas très sexy, on pourrait dire. Et malheureusement, nous n'avons pas modifié ce message pour le rendre plus présentable. C'est scandaleux que le Fils de Dieu ait été mis à mort. Et ça le restera tout le temps. C'est la centralité du message. L'Église est fondée là-dessus. L'Église, à cause de cela, ne pourra jamais être reconnue, admirée, appréciée par le monde non-croyant. Et nous-mêmes, face à cela, nous sommes appelés à convertir nos valeurs, notre compréhension du succès, de l'efficacité. Nous, on aimerait que toute la ville de Nîmes ait une croyante grâce à nous. Mais le Dieu que nous annonçons, c'est celui qui est mis à mort par le monde. Alors Paul va plus loin aussi dans la lettre aux Corinthiens. Vous vous rappelez ? Il dit, Dieu a choisi... Qu'est-ce que Dieu a choisi, vous vous rappelez ? Les choses folles du monde pour confondre les sages et les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Là encore, c'est très fort. Et en quelque sorte, Dieu se donne à connaître là où on ne l'attend pas. Nous, on l'attendrait dans la force, dans la sagesse, parce qu'on sait qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, très intelligent, etc. etc. Mais ce n'est pas là qu'on le rencontre. On le rencontre dans la faiblesse du Christ qui meurt sur la croix. On le rencontre dans la folie de ce que ça représente pour les gens. Et on ne le rencontre pas dans les choses puissantes, fortes ou pleines de sagesse. Et là, ce que Paul met en question, ce n'est pas seulement les faiblesses morales, les échecs visibles de l'humanité, mais c'est plutôt les performances, les meilleurs côtés de l'humanité sans Dieu. Et la croix ne vient pas seulement nous provoquer dans ce que nous sommes de pire, mais aussi dans ce que nous sommes capables de plus performant, de plus brillant. La croix vient juger non seulement ce dont nous avons le plus honte, mais surtout ce dont nous sommes fiers. On le voit dans la vie de Jésus. On l'a rappelé ce matin, hein. Lui c'est l'ami des pécheurs. Pas l'ami des Romains tout-puissants à l'époque, ni les amis des pharisiens tout bien comme il faut religieusement. Les religieux performants et admirables de son époque sont choqués de l'accueil incompréhensible que Jésus accorde à des gens modestes, à des gens qui sont en échec de différentes manières selon les critères du monde. Les pauvres, les délaissés, les prostituées, les malades, les exclus, les étrangers. Et Dieu se donne à connaître là où on ne l'attend pas. La croix déchire la fierté, la prétention des humains. Ce ne sont pas les péchés de la société qui posent le plus de problèmes. C'est la bonne conscience, les vertus de la société, sa satisfaction d'elle-même. Alors c'est un message très radical, et on le sent bien quand on témoigne à des gens que, il y a un moment, ils se mettent en retrait parce qu'ils se sentent à la fois attaqués dans ce qu'ils ont de pire et dans ce qu'ils ont de meilleur. Et du coup, c'est un message qui est aussi douloureux pour l'Église. Comme ça a été douloureux pour le Christ de mourir sur la croix. Cela réclame de notre part du courage spirituel. Ça réclame aussi de résister à notre tentation du religieux. Puis ça nous oriente vers l'abaissement du Fils de Dieu, vers sa souffrance, vers sa croix, sa mort, qui est la manière dont Jésus a vaincu le monde. Et donc la mission de l'Église, selon Paul, c'est d'affronter le monde, de bien affronter le monde avec ses éléments, la faiblesse et la folie, la croix du Christ. Alors maintenant, je propose qu'on regarde ce que dit l'apôtre Jean sur la mission de l'Église. Et là, on va regarder dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, vous rappelez hein, cette prière de Jésus qu'il a prononcée la veille de son arrestation et de sa mort. Jésus prie pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui à leur suite. Et donc, ça nous concerne, puisqu'on fait partie de ceux qui croiront en Jésus à la suite des disciples de Jésus. Et donc, juste avant de dire cette prière, au chapitre 16, verset 33, Jésus déclare « Courage, j'ai vaincu le monde ». Et puis, il commence sa prière. Et puis, à un moment donné, dans cette prière, il déclare à Dieu « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Alors, ce mot « comme », il est important parce qu'il nous montre qu'on n'a pas besoin de copier la méthode de Jésus. On pourrait dire, on n'est pas obligé d'aller mourir sur la croix. C'est seul Jésus. C'était son chemin. Non, mais ce mot « comme » nous indique la chose suivante. De même que le Père et le Fils, Jésus, sont dans la communion et manifestent leur volonté de donner la vie au monde, de même, nous devons être en communion avec le Christ et suivre sa volonté d'apporter la vie au monde, comme tu m'as envoyé dans le monde. Donc le Père Jésus, qui envoie Jésus dans le monde pour que le monde ait la vie, de même, lui nous envoie pour que nous soyons en communion avec lui et que le monde reçoive la vie. À la fin de l'évangile de Jean, Jésus dit à nouveau, c'est Jean 20, chapitre 20, versets 21-22, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Hein, » il répète cette formule. « Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Et l'Esprit-Saint donc est transmis aux disciples, et donc à nous aussi, afin d'être présents dans le monde et d'être en communion avec Jésus, comme Jésus était présent dans le monde et en communion avec le Père. La mission de l'Église. Comme le Christ dans le monde, ainsi l'Église doit-elle être, par l'aide de l'Esprit. Alors cette présence au monde, c'est un chemin de facilité, là encore. Alors 6 fois dans la prière, on voit que Jésus parle au Père Saint, au Père Juste. Et donc, selon Jean, la paternité de Dieu occupe une place importante. On le voit dans tout l'Évangile, mais on le voit aussi dans son Épître. Et c'est aussi un fondement de la mission de l'Église. Déclarer, confesser, témoigner, annoncer de la paternité de Dieu. Dieu est un Père. Alors, dans les systèmes religieux très différents, on trouve des fois que Dieu est affirmé comme un père, mais au sens global. C'est le créateur, le père de l'humanité, le père de la tribu, des fois. Mais dans la foi au Christ, Dieu se révèle comme le père de chacun, de chacune, de manière très personnelle. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, on l'appelait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On ne l'appelait pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. On l'appelait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ça, c'était pour marquer le fait que Dieu, ce n'était pas le Dieu des trois, c'était le Dieu de chacun des trois. Le Dieu en particulier dans la vie propre de chacun. Et c'est ça qu'on a annoncé. Dieu va avoir une relation avec chaque être humain en tant que Père. Alors le Père, c'est celui qui donne la vie. De lui vient la vie. Et le Père et le Fils, dans la Trinité, partagent cette vie. Ils sont la vie en eux-mêmes. Ils donnent vie. Et nous, nous sommes frères et sœurs parce que nous recevons la vie véritable du Père et du Fils par le Saint-Esprit. Donc notre mission face au monde est d'annoncer cette paternité personnelle de Dieu. Et notre défi est de vivre cette vie véritable. Et dans notre société, on est confronté à 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on pourrait envisager que l'Évangile, quand on l'a reçu, c'est une manière de mieux vivre. Ben oui, on n'a plus peur de la mort, on a des frères et sœurs, des amis, on trouve du soutien dans la prière, dans la présence de Dieu. Et ça serait. On a cette tentation en nous de que ça soit juste un moyen de mieux vivre, quoi. Hein, que ce soit plus confortable. Une grosse tentation, hein. Et puis nos contemporains, nos croyants, ils cherchent la même chose d'autres manières. Sans que ça, c'est vraiment un immense défi. C'est pas de la pensée positive ou je sais quelle manière d'améliorer notre vie ici-bas. Le deuxième défi, c'est que si on le vit entre nous, c'est que ça reste entre nous. Entre nous qui nous entendons bien. C'est le deuxième défi. Notre tentation, c'est d'en rester là. On est bien entre nous. On est déjà suffisamment nombreux. J'entends même, on est trop nombreux, la salle est trop petite, etc. Donc l'Évangile réduit notre peur face à la mort, nous aide dans l'adversité et la maladie, nous entretenons de l'affection et de l'aide concrète les uns envers les autres, c'est un bienfait. Mais notre tentation, c'est d'en rester là, et de ne pas apporter le message et notre témoignage autour de nous à notre prochain. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Alors pour finir, je voudrais citer un pasteur, Richard Jeunin, qui était venu il y a quelques années pour parler des psaumes. Lui, il définit comme ça, les fondements de la mission de l'Église se résument en ces trois qui demeurent. La foi dans la croix, l'espérance dans la vie de résurrection, et l'amour qui atteste que nous sommes les disciples du crucifié ressuscité. Alors je vous invite à un petit temps de prière. Notre Dieu, notre Père, déjà je veux te remercier pour la paternité que tu as révélée à chacun de nous. Merci parce que ça s'est fait au travers de la rencontre avec Jésus. Et cette rencontre, elle a eu lieu parce que nos oreilles ont entendu l'Évangile qui nous a dit que nous n'avons rien à faire, que tout est déjà fait, que le chemin a été ouvert, que nous pouvons juste l'emprunter, marcher sur ce chemin. Te remercions, Jésus, d'avoir ouvert le chemin vers le Père. Seigneur, nous voyons aussi les deux voleurs qui se tiennent à nos côtés, à droite et à gauche, et qui seraient capables de nous voler l'Évangile. Nous prions que tu nous gardes à titre personnel et puis en tant que communauté, que tu nous gardes de la religiosité, de l'irreligion, du légalisme, du laxisme. Nous puissions nous rappeler les uns aux autres, à nous-mêmes, à la communauté, à tous ceux qui participent, que nous avons besoin de recevoir l'Évangile. Nous n'avons rien à faire. C'est quelque chose qui a été fait pour nous. Puis te prions aussi, Jésus, que tu nous aides à relever le défi d'annoncer, même si c'est difficile d'annoncer ce message scandaleux ou fou, même si c'est difficile d'aller à la rencontre des contemporains avec ce message. Nous te prions de nous donner ta force par l'Esprit Saint pour vivre cet évangile, pour le témoigner par notre vie communautaire, notre vie personnelle et pour l'annoncer. Amen.